Bon, on peut commencer ? Allons-y. Donc la semaine dernière, je vous rappelle qu'on avait questionné l'image du canut comme ayant été porteur d'une première violence liée à la lutte des classes, à la lutte économique et autres. On avait interrogé ça en disant, oui, c'est vrai que sur l'épisode novembre 1831, avril 1834, et sur d'autres épisodes moins connus de cet intervalle de temps, par exemple dans la grève de février 1834, c'est vrai qu'il y a eu des revendications, c'est vrai qu'il y a eu souvent des revendications fortes, violentes. Mais on a aussi vu que, quand au premier jour de l'insurrection de novembre 1831, les canuts crient « vivre en travaillant ou mourir en combattant », c'est dans cet ordre-là. Leur premier objectif, c'était certainement pas de mourir, ni en combattant, ni en travaillant, mais de vivre en travaillant. Or, ce cri qu'ils poussent au moment de l'insurrection, ils l'ont également poussé et modulé d'une autre manière à Lyon dans les années 1831-1834, et on avait vu que la principale modulation de cette voix des canuts a été via la création d'un journal. Journal des canuts, l'écho de la fabrique, on en a parlé longuement la semaine dernière. J'ai notamment souligné le fait que c'était un journal de très haute tenue, un journal structuré avec des rubriques littéraires, rubriques politiques, si ce n'est que, je ne sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière, le journal n'était pas un journal estampillé politique, pour une raison simple, c'est que sinon il devait payer un cautionnement, qui était un cautionnement extrêmement cher, et donc il se dissimulait derrière le fait que c'était un journal industriel. C'est pour ça que le sous-titre du journal L'Écho de la Fabrique était Journal industriel et littéraire de Lyon. Donc il disait qu'il n'abordait pas les matières politiques. Mais évidemment, comme il était la cœur de ses propositions, ou le cœur de ses propos concernait centralement l'économie politique, en fait il a traité pendant 3 ou 4 ans de politique, mais sans le dire. Ce qui ne l'a pas empêché, même en ne traitant pas de questions politiques, d'être constamment, et je vous l'avais dit un petit peu la semaine dernière, d'être constamment sous le coup de procès à partir de l'été 1832 à peu près, lorsque, comme on l'a dit à plusieurs reprises, lorsque les gouvernements successifs de Louis-Philippe deviennent de plus en plus conservateurs et de plus en plus réticents à pousser ou à donner une extension aux libertés qui avaient été proposées par la charte de 1830, à partir de cette période-là, de l'été 1832, il y a une censure, c'est la thématique de l'université populaire cette année, mais il y a une censure de plus en plus importante vis-à-vis de la presse patriote, c'est-à-dire la presse républicaine, et de la presse ouvrière ou des autres types de presse opposées au pouvoir orléaniste, par exemple la presse légitimiste. Donc il y a une censure qui est de plus en plus importante, et par exemple l'écho de la fabrique est frappé de façon régulière par des procès, donc des procès qui gagnent ou qui perdent, mais des procès qui, d'un côté, vont être une chance pour le journal, parce que les procès bénéficiaient d'une autre liberté, les procès pour les questions de presse bénéficiaient d'une autre liberté de la charte de 1830, qui était la liberté du jury. Donc les procès étaient jugés devant un jury, et très souvent le procès était l'occasion de déclamations républicaines et autres. Donc d'un côté c'était une chance, mais d'un autre côté c'était aussi un fardeau, et un fardeau extrêmement lourd pour ces formes de presse, parce que des amendes tombaient, parce que les directeurs de la publication passaient un certain nombre de jours en prison. Donc ce journal, je ne me rappelle plus quel était le point de départ de cette parenthèse, mais donc ce journal était extrêmement structuré, traité effectivement de façon un tout petit peu transversale, traité de politique, traité également de littérature. Mais on avait vu aussi donc la semaine dernière que si on cherche à isoler dans le cadre de l'écho de la fabrique ce qui pouvait constituer le point sur lequel le journal insistait le plus, l'institution qui était le plus travaillée à travers cette presse, on avait vu que c'était les prud'hommes. Et donc on avait relié cette insistance sur les prud'hommes avec ce qu'on avait raconté avant sur le caractère central de l'institution des prud'hommes depuis 1806 dans la régulation, dans ces formes de régulation qui étaient des formes de régulation démocratiques qu'il y avait dans cette économie d'atelier. Et donc, pour cette raison, la colonne vertébrale de l'écho de la fabrique, c'était le compte-rendu du Conseil des prud'hommes et les échanges hebdomadaires autour du compte-rendu du Conseil des prud'hommes. On avait aussi souligné que, pour cette raison, l'une des grandes thématiques, une double thématique sort du journal pendant ces 4 ans, c'est d'une part comment modifier l'organisation des prud'hommes pour faire en sorte que les formes de paritarisme qui étaient expérimentées dans le cadre des séances de prud'hommes deviennent plus effectives, qu'il y a un moindre déséquilibre entre le nombre de prud'hommes négociants et le nombre de prud'hommes canus, qu'il y ait des élections qui impliquent la majeure partie des canus et pas simplement une fraction de la population des chefs d'atelier. Donc on avait vu qu'il y avait un combat autour de ça, et puis on avait vu qu'il y avait aussi un double combat, toujours sur cette question des prud'hommes, dans le cadre de l'écho de la fabrique, autour des 2 revendications basiques qu'on voit pendant 3 ou 4 ans, qui sont des revendications extrêmement importantes. C'est premièrement la revendication de libre défense, pour faire en sorte que le canu qui se présentait devant le Conseil des prud'hommes face à un négociant puisse être aidé dans le cadre de ses réclamations et puisse être aidé par des hommes de loi, par des avocats. Donc ça a été une première revendication qui a été combattue par les autorités, qui a été combattue par les négociants fabricants. Deuxième revendication qui est peut-être plus importante encore à ce moment-là, celle de la jurisprudence fixe, ce qu'ils appelaient la jurisprudence fixe. C'est-à-dire que les cas qui étaient tranchés, sur lesquels il y avait conciliation ou jugement dans le cadre des prud'hommes, devaient, selon eux, faire jurisprudence, pour éviter que les cas soient systématiquement rejugés et que les canus soient systématiquement obligés de reposer les mêmes types de revendications. Donc, ils utilisent le terme, ils veulent la constitution à travers cette institution et à travers ces négociations, ils veulent la constitution d'un véritable code du travail. Donc, on avait un petit peu abordé toutes ces questions-là la semaine dernière en disant, voilà, ce journal c'est pendant longtemps focalisé, non pas focalisé, mais c'est intéressé centralement à cette question de comment améliorer, comment maintenir et comment améliorer le Conseil des prud'hommes. Bon, mais dans le cours de l'évolution politique et économique de ces années 1830-31-1834, on voit aussi apparaître des thématiques beaucoup plus générales. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme on l'a dit depuis le départ, la situation politique a évolué, mais la situation économique change aussi très vite. On l'a dit, les crises commencent à être... On commence à constater que les crises sont périodiques. On commence à constater également que ce nouveau monde industriel qui semble se mettre en place produit de façon paradoxale à la fois des richesses, mais à la fois beaucoup de pauvreté. Et ça, c'est quelque chose qui frappe énormément, parce que dans le cadre de la réflexion antérieure qu'on commençait à avoir, qui était peut-être une réflexion relativement immature, neuve, jeune, sur la société industrielle, on voyait apparaître des sociétés industrielles sur les ruines des sociétés guerrières du XVIIIe siècle, des sociétés monarchiques, des sociétés aristocratiques, des sociétés qui étaient des sociétés de guerriers et d'aristocrates. On voyait apparaître l'aube, en quelque sorte, d'un nouveau monde industriel, et on pensait que ce nouveau monde industriel allait, en quelque sorte, spontanément s'imposer et spontanément créer de l'abondance et de la richesse pour tous. Or, les constatations commencent à affluer au milieu des années 1820-1830. Je vous l'ai dit, c'est la grande période également pour les sciences sociales, c'est la grande période de l'essor des statistiques, et donc on commence à compiler des statistiques sur les taux de mortalité de tel ou tel type de population, les habitats et autres. Et les premiers observateurs dans les années 1820, qui sont très souvent des médecins hygiénistes, les observateurs sont atterrés par ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire de la pauvreté absolument partout. Et donc, dans ce tournant des années 1830, les réflexions sur, finalement, l'évolution de ce monde qui se met en place, monde industriel, deviennent de moins en moins sereines, deviennent de moins en moins tranquilles, et vous commencez à avoir des réflexions sur des véritables réflexions sur les pathologies de ce nouveau système. Est-ce que c'est des pathologies qui sont inhérentes à ce système ? Est-ce que ce sont des pathologies qui minent de l'intérieur ce système ? Donc, est-ce que ce système est voué à l'échec ? Donc, vous avez tout un ensemble de nouvelles réflexions qui apparaissent. Dans le cadre de l'écho de la fabrique, bien sûr, il y a à la fois une réception des débats de ce type, mais il y a également une réflexion autonome qui se développe de la part des journalistes de l'écho de la fabrique. Et on comprend très bien que très rapidement, ils comprennent très bien que l'objectif est d'éviter deux périls qui sont deux périls symétriques, qui sont ceux de la concurrence chaotique d'un côté. Donc il y a des premières critiques qui apparaissent très fortes sur le principe de concurrence, qui a été porté en plus à Lyon par un économiste, le grand économiste libéral au XIXe siècle, c'est Jean-Baptiste Say, qui est un Lyonnais. Et donc Jean-Baptiste Say a défendu le principe de la liberté, c'était un républicain au moment de la Révolution, au moment où il écrit Holby à la fin de la période révolutionnaire, et puis ça devient un libéral sur le plan économique. Donc il commence à y avoir des réflexions à Lyon contre ce système de la liberté illimitée, ce qu'ils appellent la liberté illimitée, où c'est surtout, on n'a pas le terme libre concurrence n'est pas de ce temps, apparaît un petit peu plus tard. Mais il y a ce principe de la liberté illimitée. Donc ça d'un côté, et puis d'un autre côté, on veut aussi éviter le système de la centralisation monarchique, un système de la centralisation monarchique appliqué au domaine de l'économie. Et donc par rapport à ça, on constate de plus en plus les pathologies. Alors j'ai retenu une phrase qui date de 1834. Ces pathologies, finalement, quand on écoute les Canus en 1833, les pathologies qu'ils décrivent, ou qu'ils commencent à décrire face simplement à l'observation qu'ils font du système économique de leur temps, ces pathologies ont un caractère qui est tout à fait audible pour nous. Voilà par exemple ce qu'on trouve dans le journal L'Indicateur, qui est donc le journal des mutualistes qui paraît en 1834 et 1835 et qui prend la succession de l'Écho de la Fabrique. C'est un journal qui, je l'expliquerai, était un journal plutôt fourriériste. Voilà ce qu'on trouve dans un numéro de l'automne, je crois que c'est octobre 1834. Donc le journaliste écrit ça. « Quand on songe à tous les tiraillements, à toutes les secousses qui viennent ébranler la société par le seul fait de la volonté et des caprices de quelques agioteurs qui, à leur gré, disposent de la prospérité ou de la détresse des affaires, qui font d'une mauvaise saison des accidents graves des sujets de spéculation, par lesquels ils deviennent plusieurs fois millionnaires et plongent dans un complet dénuement la généralité des familles, on se demande comment de semblables faits, qui sont des crimes de lèse-humanité, peuvent se commettre sans que les lois ne puissent ni les atteindre, ni les punir. Les personnes sensées et de bonne foi comprennent facilement que bien que les grands spéculateurs n'aient des rapports qu'avec d'autres riches spéculateurs, les résultats sont toujours le maintien ou l'accroissement de la misère des masses. Car le plus souvent, c'est sur les objets de première nécessité que se fixe leur ambition. » Donc vous commencez à avoir à ce moment-là des réflexions de ce type, qui sont des réflexions beaucoup moins naïves sur les vertus du doux commerce ou sur l'essor de la société industrielle. Et donc vous avez bien entendu des réflexions qui dépassent à ce moment-là, dans le cadre de l'Écho de la Fabrique, qui dépassent la simple réflexion sur l'économie de la fabrique, c'est-à-dire l'économie de la soie lyonnaise. Alors j'en viens à la dernière interrogation que j'aurai dans le cadre de ces présentations, et que j'avais titré « Les Canus, simples transmetteurs des utopies et autres radicalités du début des années 1830 ». Pendant longtemps, on a considéré que les Canus avaient été en quelque sorte, avaient gobé un certain nombre de radicalités, un certain nombre de discours radicaux qui se sont développés au début des années 1830. Et en particulier, les discours que je vais détailler un petit peu plus tard, les discours des Saint-Simoniens d'abord, des Républicains ensuite, des Fourriéristes enfin. Longtemps on a considéré que c'était comme ça, parce que longtemps on a considéré qu'il était impossible qu'il en soit autrement. Les Canus n'avaient pu être dans leur situation que des sortes de récepteurs complètement lisses, de pensées structurées, de pensées radicales structurées concernant le politique ou l'économique qui venaient d'ailleurs, et qui venaient notamment des intellectuels. Ça, c'est quelque chose de très fort. Pour une nouvelle fois, vous essayez de vous indiquer quel était l'état d'esprit à l'époque. Là encore, j'ai retenu deux témoignages, deux auteurs qui, à peu près dans cette période-là, un tout petit peu plus tard, deux auteurs qui parlent des Canus. Voilà comment on parle des Canus. Le premier, c'est Armand Digan, qui va publier, c'est un tout petit peu plus tard, c'est une vingtaine d'années plus tard, il publie au tout début de l'Empire, donc en 1854, il publie un tableau des populations ouvrières en France. Donc il se promène un petit peu partout en France, et parmi les populations ouvrières qu'il décrit, bien sûr, il y a les Lyonnais. Et il fait une description assez terrible des Lyonnais, parce que bien entendu, le chapitre, on est en 1854, donc auparavant, il y a eu novembre 1831, il y a eu avril 1834, et puis il y a eu les épisodes des Voraces en 1848, qui ont donné une réputation tout à fait sulfureuse à la ville. Donc il fait une description du canut qui est celle-là. Et il montre le canut comme étant finalement sans opinion. Voilà ce qu'il écrit. Donc je le cite. Hein. Mais à l'instruction, donc il reproche au canut à la fois un manque d'instruction, de culture qui, dans les termes de Hodigan, développe l'esprit, et un manque d'éducation qui finalement se caractériserait par un déficit de morale chez les canuts. Et voilà ce que dit Hodigan par la suite. Nulle part cependant, elle ne serait plus nécessaire qu'à Lyon, cette culture de l'instruction et de l'éducation. Elle ne serait plus nécessaire qu'à Lyon, où la population laborieuse ne possède pas ce sens simple, droit, qui supplée parfois aux défauts de culture intellectuelle et fait deviner les écueils. Donc non seulement ils n'ont pas de culture intellectuelle, mais ils n'ont pas aussi ce bon sens. Son imagination remuante, donc il parle de la population lyonnaise, incapable de se fixer longtemps sur un même objet, pour en considérer toutes les faces, l'empêche, la plupart du temps, de se forger une idée exacte des choses. Aussi, malgré leur goût pour l'indépendance, les travailleurs de la fabrique lyonnaise ne pensent presque jamais par eux-mêmes. Ils ont absolument besoin de recevoir un thème tout fait, sauf à le broder ensuite avec leur rêverie, comme la chaîne de leur tissu à l'aide de leur habile navette. Ils subissent donc aisément l'influence des idées et des passions d'autrui. Rien de plus facile que d'exploiter à leur insu cet état mental qui n'est pas l'ignorance, mais l'absence de réflexion. Autre danger, il poursuit, ces hommes qui ont de la science une haute idée ont moins le désir de l'acquérir que l'orgueil de paraître la posséder. Aussi aiment-ils à s'occuper de ce qu'ils ignorent, moins pour l'apprendre que pour paraître le savoir. Une ardeur aventureuse les emporte d'un bond vers des questions au-dessus de leur portée, sauf à les laisser ensuite se perdre dans le champ du vide. Les sujets abstraits, les idées nuageuses, les solutions vagues sont pour eux l'atmosphère préférée. Ils n'ont pas besoin de comprendre pour être captivés par un discours, il suffit que les mots qu'on emploie puissent donner à rêver. Donc il y a une description du canut comme étant absolument incapable de produire une pensée structurée, une pensée cohérente sur la société, et donc qui simplement reçoit et en plus réceptionne de façon déformée un certain nombre de discours qui étaient discours radicaux. Ça c'est le point de vue de Hodigan, qui est un économiste libéral, qui a été appointé par le gouvernement et qui vient, qui défend la politique. Bon, c'est pas la politique libérale, l'Empire, au début des années 1850, mais qui défend la politique économique de l'Empire. Mais je vous en citerai également un autre qui dit la même chose, c'est Lamartine. Lamartine est un républicain. En 1854, comme je l'avais dit à une des présentations ici, il fait un éloge de Jacquard, de l'ouvrier Jacquard, et il dit, voilà ce que la façon dont on présente Lamartine, de la même, en fait, dans les termes qui sont très proches de ceux de Leroux, hein, voilà, nous ne voulons pas donner le nom de grand homme à un ouvrier en soi, homme simple, bon et utile, esprit sans autre horizon que celui de sa profession, sans autre lumière que les lueurs de sa lampe, mais rêveur, ingénieux, obstiné à la découverte, acharné à l'invention, et doué d'un instinct si exclusivement mécanique que des esprits supérieurs, qui l'entendaient parler sur d'autres sujets que son métier, s'en allaient en disant de lui « Ce n'est rien, c'est une machine qui en a inventé une autre ». Donc voilà un autre point de vue de Lamartine, qui est pourtant l'un des icônes des Républicains, en 1848. Vous avez une réponse indirecte dans l'écho de la fabrique en 1833, parce que bien entendu, la lecture des textes des journalistes chefs d'atelier ou des journalistes alliés des chefs d'atelier dans ces années 1831-1834 montre que bien entendu ce n'était pas le cas. Bien entendu, il y avait une réflexion qui était une réflexion extrêmement critique qui se développe. Voilà une réponse qu'on trouve dans l'écho de la fabrique. Ils disent « Ainsi donc, l'homme du peuple n'est pour eux qu'une machine à travail, qui a tort de savoir lire et de lire les journaux, tort de se mêler des affaires de son pays, tort d'avoir et d'émettre une opinion en matière de gouvernement, et surtout tort, et c'est ça qui est important, surtout tort de croire que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes possibles. » Donc ce que je voudrais souligner ici, c'est plusieurs choses. Donc je les résume et puis après je les aborderai. D'abord, je montrerai que effectivement, quand on étudie cette période-là, oui, les canuts connaissaient les discours qui étaient les discours dits radicaux, utopistes, associationnistes, socialistes associationnistes, romantiques ou autres, de la période. Oui, ils connaissaient tout ça, et oui, il y a des contacts qui sont des contacts très forts, oui, ils assistaient aux conférences. Mais ce qui est tout à fait intéressant de voir, c'est à quel point il y a une réception par les chefs d'atelier, mutualistes ou non mutualistes, de ces discours-là, comment ils les bricolent et comment ils en sortent un certain nombre de solutions et un certain nombre de points de vue différents pour penser leur situation à eux. C'est ça surtout qui est important quand on lit cette presse-là. Donc simplement, quelques rappels d'abord sur ces utopies des années 1830, donc sur les Saint-Simoniens, les Républicains et les Fourieristes. Les Saint-Simoniens d'abord, quelques éléments de chronologie. Donc le père du Saint-Simonisme, c'est le comte de Saint-Simon, qui vit, qui est un homme du XVIIIe siècle, qui va mourir en 1825, et qui réfléchit sur, c'est l'un des premiers à réfléchir, sur l'essor de ce nouveau monde qui est en train de remplacer les sociétés d'ancien régime. Et ce nouveau monde, il le voit régi. Il voit que c'est un monde qui va être dominé par deux grandes nouvelles forces, deux forces nouvelles qui remplacent, selon lui, les aristocrates et les prêtres. Et les prêtres, ces deux forces, c'est d'un côté l'industriel, celui qui travaille, celui qui produit, et de l'autre côté le savant. Il y a trois phases, en gros, très rapidement dans la pensée de Saint-Simon. Une première phase dans laquelle il pense que le nouveau monde qui se met en place grâce à ces deux forces motrices va être réorganisé grâce au savoir encyclopédique de la science. Puis il réfléchit dans une deuxième phase et il montre que c'est les industriels, en fait, les travailleurs, qui vont être au cœur de ce nouveau monde. Et c'est à ce moment-là qu'il publie d'ailleurs en 1819 ou 1820 une fameuse parabole dans laquelle il explique, et d'ailleurs qui le conduira à aller directement en prison, dans laquelle il explique et dit imaginez que la France perde ses 50 premiers savants, ses 50 premiers entrepreneurs, ses 250 premiers artisans en tel domaine. Bon, imaginez, ça serait catastrophique. Et imaginez qu'on perde la famille royale, le duc, tout ça, et ainsi de suite, les barons. Bon, il dit que ça serait vraiment dommage, mais par contre, ça ne perdrait absolument rien. Et donc, c'est la fameuse parabole des abeilles et des frelons. Et bon, bien entendu, comme en plus, juste après cette parabole qui a été publiée dans les journaux, l'un des principaux ministres du roi est assassiné, ça conduira Saint-Simon directement en tôle. Donc il y a trois phases dans son œuvre, une phase plutôt scientiste, une phase plutôt industrialiste, et à la fin, et c'est très important, dans ses tout derniers textes qui sont de la période 1824-1825, et notamment un texte qui s'appelle « Le nouveau christianisme », il est le premier à constater que ce nouveau monde qui se met en place crée, bien entendu, de la richesse, mais crée également de la pauvreté. Et que l'un des principaux enjeux du nouveau monde qui se met en place est de mettre en place les institutions, ce qu'il appelle les institutions pour la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Donc il décède en 1825, et donc il faut une nouvelle morale. Donc il y a une troisième phase qui est plutôt morale dans son œuvre, qui est plutôt une phase en matière d'équité. Il décède en 1825, très rapidement, sa réflexion attire de jeunes ingénieurs, qui sont pour la plupart des polytechniciens ou des centraliens, qui se regroupent, qui créent une revue, qui commencent à publier autour des thématiques saint-simoniennes. Ils créent une première revue, puis ils exposent la doctrine de Saint-Simon, ils publient un manifeste qui est paru en 1828-1830, qui s'appelle Exposition de la doctrine de Saint-Simon. On arrive sur notre période, en 1830, c'est la première grande école, finalement, la première forme de c'est toujours difficile de donner un terme, la première forme de socialisme utopique, ou la première forme de socialisme associationniste, on les a appelés, ou la première forme de socialisme romantique. Sur quoi ils insistent, basiquement? Premièrement, un certain nombre d'entre eux insistent sur la nécessité, effectivement, de créer des institutions pour la classe, des institutions qui permettent d'intégrer la classe la plus nombreuse et la plus pauvre à la société industrielle qui est en train de se développer. Deuxièmement, ils insistent sur une distinction qui est encore fondamentale au sein de la société industrielle. Ils disent le problème de la société industrielle, bien sûr, c'est une société qui est une société potentiellement abondante et potentiellement heureuse, mais elle a un problème en son cœur. Le problème, c'est que vous avez une classe de travailleurs, les industriels, qui est en train de se développer, mais elle est en butte à une classe d'oisifs. Donc il faut absolument que les travailleurs éliminent mais pas dans un sens physique, hein, arrive à faire disparaître la classe des oisifs. Et ils repèrent l'endroit où se fait la spoliation, et c'est sur la question de la propriété. Ils remarquent qu'un certain nombre de propriétés, les principales propriétés, que ce soit en matière de terre, en matière de capitaux, en matière de richesses et autres, sont aux mains d'une classe qui ne travaille pas. Et donc la principale problématique des Saint-Simoniens va être de découvrir un certain nombre de mécanismes pour faire en sorte que la propriété passe des mains des oisifs aux mains des travailleurs. Et ils vont insister, donc il y a tout un ensemble d'institutions sur lesquelles ils travaillent, dont la banque, dont l'État, qui travaillent sur les phénomènes de la question des variations du taux d'intérêt, ils travaillent aussi sur la question de l'héritage, et ils essayent d'imaginer un certain nombre de moyens qui permettraient de gérer la transition pour passer à une société qui soit uniquement une société d'industriels. Comment ils voient cette société industrielle? Ils la voient finalement comme un vaste atelier, une vaste usine dans laquelle finalement tout le monde sera employé selon ses capacités, tout le monde sera rétribué selon ses œuvres, c'est la formule saint-simonienne, à chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres, et c'est ça qui prévoit pour l'avenir. Bon. Deuxième radicalité qu'on voit réapparaître dans cette période-là, les républicains. Donc bien entendu, dans la période qui nous intéresse de ce début des années 30, on n'est pas en république. La première république a duré de 1792 à 1804, la deuxième république va durer 3 ans, entre 48 et 51, et la troisième république qui va véritablement instituer la république, le régime républicain en France, arrive après 1870. On n'est pas en république, on est sous une forme de monarchie constitutionnelle, mais au début des années 1830, en raison de la chute du roi Charles X, en raison de la charte qui a été octroyée, qui a été négociée avec le roi, et on parle d'un roi à ce moment-là, pour la première fois, on parle d'un roi citoyen, non pas un roi qui aurait été installé là par une autorité divine, mais un roi qui serait à sa place en raison du choix des citoyens. Dans cette conjoncture-là, on voit réapparaître les sociétés républicaines, les clubs, les associations. Il faut savoir aussi que Lyon, pour un certain nombre d'historiens, est à ce moment-là probablement la première ville républicaine de France. Il y a un républicanisme très fort qui se développe également à Lyon. Quel est le principal cheval de bataille des républicains dans cette période-là? Il est simple, c'est qu'ils disent la solution du problème social n'est pas tant ce que nous racontent les Saint-Simoniens, c'est-à-dire la constitution d'une grande manufacture capacitaire et autres, du nouveau monde industriel organisé sur ce modèle rationnel économique. La solution n'est pas tant dans le domaine économique, ils disent, la solution est dans le domaine politique. Et pour aboutir à une solution, à une société juste, il faut absolument instituer la souveraineté nationale et le suffrage universel. Parce que à partir du moment où vous aurez une représentation complète des différents intérêts des citoyens, à partir de ce moment-là, les intérêts étant représentés, vous aurez une société qui sera une société juste. Il faut savoir qu'on est quand même dans une période où la population, le sens étant ce qu'il est à ce moment-là, la population des électeurs représente à peine 100 000 électeurs en France. Donc ils demandent un très large élargissement de la représentation au niveau national. Et donc, pour eux, le principal moyen de la réforme à ce moment-là est un moyen politique. C'est qu'il faut instituer un régime républicain. Il faut instituer un gouvernement républicain représentatif de l'intégralité des intérêts. À partir de ce moment-là, ils disent, les intérêts politiques, mais aussi les intérêts économiques, seront respectés, des différents partenaires seront respectés. Là est la solution. Donc, j'avais quelques... Voilà, par exemple, Armand Marat, qui est un grand républicain, qui dirige un des principaux journaux républicains de l'époque, qui est le National. Il écrit un tout petit peu plus tard, on est en 1837, « Toutes les oppositions réelles doivent se concentrer sur le terrain que la loi permet d'aborder et combattre pour la souveraineté du peuple sous le drapeau de la réforme électorale. » Donc voilà une deuxième forme, une deuxième réponse qui est donnée au vaste problème que j'avais un tout petit peu présenté au tout début, qui était ce problème de l'évolution de cette société industrielle du début des années 1830. Deuxième réponse, première réponse, les Saint-Simoniens, il faut un système dans lequel on élimine les oisifs, on modifie le régime de la propriété, on fasse en sorte que la propriété soit confiée aux mains des plus compétents, et on organise la société économique comme une manufacture dans laquelle chacun est employé au bon endroit. Ça, c'est la société, ça, c'est la solution des Saint-Simoniens. La solution des Républicains, c'est non. La solution est d'abord et avant tout politique. Il faut d'abord instituer un gouvernement républicain. Et à partir du moment où un gouvernement républicain sera représentatif de l'intégralité des intérêts, vous n'aurez pas ce type de pathologie dans la désorganisation due aux crises économiques, d'une part, et d'autre part, des inégalités très importantes avec les 9 dixièmes de la population dans des états, un, de précarité extrême et deux, de pauvreté. Troisième, j'ai limité à trois, mais il y en a d'autres parce qu'il faut savoir que. Il faut savoir, par exemple, que dans le cadre du mouvement saint-simonien, il y a très vite, entre 1825 et 1830, donc c'est le moment où se constitue, Saint-Simon est mort en 1825, l'école se constitue à ce moment-là, et entre 1825 et 1830, plusieurs schismes et plusieurs personnalités importantes du mouvement saint-simonien quittent le mouvement et créent des branches dissidentes. Toutes ces branches sont assez intéressantes à étudier. Mais là, je ne peux pas les... Bon, il y a, par exemple, il y en a une avec Philippe-Joseph Buchez d'un côté, qui crée une revue qui est très, très, très intéressante à lire en 1931-1932, qui s'appelle L'Européen. Vous avez Pierre Leroux, qui quitte également le mouvement, et qui anime la revue encyclopédique. C'est dans la revue encyclopédique, en particulier, Leroux était beaucoup plus... Il quitte le mouvement saint-simonien parce qu'il sent que la solution saint-simonienne est une solution technocratique. Et Leroux est un républicain. Donc il part du mouvement et il va écrire dans la revue encyclopédique. Et c'est dans la revue encyclopédique que paraît en 1833 par son collègue Jean Reynaud, un article, là aussi qui est un article retentissant à l'époque, qui est de la représentation de tous les prolétaires. Où pour la première fois, il y a un publiciste qui écrit qu'il faut absolument que tous les gens qui travaillent puissent avoir puissent être citoyens et puissent élire. Donc c'est l'une des premières fois qu'on voit apparaître ce genre de proposition. Il faut savoir aussi, je vous l'ai dit la dernière fois, que c'est par exemple dans la revue encyclopédique qu'on considère que Leroux baptise le terme socialisme. Pour la première fois, ça arrive un tout petit peu plus tard, en 1834. Bon. Donc, pour l'instant, je m'en suis... Donc, les Saint-Simoniens, les Républicains, et puis les troisièmes qu'il faut mentionner, parce que moi, dans le cadre de... que j'ai écrit sur les Camus, je pense que c'est eux finalement qui sont les plus en accord avec les thématiques des Camus. Les troisièmes, c'est les fourriéristes. Donc les fourriéristes du début des années 1830 procèdent de l'œuvre donc de Charles Fourier. Bon, Fourier est considéré comme le plus dingue de tous les utopistes de cette période-là. C'est vrai que chez Fourier, vous trouvez un certain nombre de propositions qui sont des propositions tout à fait bizarres. Par exemple, je la cite souvent aux étudiants quand je traite ça en cours, vous avez des propositions du type « Comment faire aimer les mathématiques à une jeune fille qui aime l'ail ?» Bon, c'est de cette façon, c'est pas un endroit où Fourier est en train de rigoler. C'est vraiment une démonstration extrêmement précise dans le cadre de sa réflexion sur les passions et dans lequel il développe ce type de propositions. Et vous en trouvez beaucoup. Vous avez, ça a été célébrissime pendant longtemps. Vous avez une typologie des cocus qui fait de 38 catégories, qui est absolument extraordinaire à lire chez Fourier. Et il y a des catégories, par exemple, qui sont assez difficiles à décrire, comme par exemple il a le cocu loup-garou. Bon. C'est vrai que quand vous commencez à travailler sur ce genre de littérature, il y a des choses qui sont assez curieuses. Fourier écrit son premier texte en 1808. Ça paraît à Lyon, et ça s'appelle « La théorie des quatre mouvements ». C'est une petite brochure qui est publiée anonymement, et je crois qu'il va s'en vendre 4, en tout et pour tout, à Lyon. Puis, il est sergent de boutique, il travaille avec les commerçants de Lyon. Donc il voit ce qu'il appellera plus tard les vices du commerce. Il publie un deuxième texte en 1822, un traité de l'association domestique agricole. Il est toujours aussi illisible parce que les propositions comme celle que je viens de faire, comment faire aimer les mathématiques à une jeune fille qui aime l'ail, il y en a partout, donc c'est très difficile à lire. Il commence à y avoir quelques disciples, en particulier à Besançon, qui se regroupent autour de lui, qui considèrent qu'il y a effectivement quelque chose de différent dans le système de Fourier, qui le supplie de publier un texte qui soit simplement lisible, et il publie en 1829 « Le nouveau monde industriel et sociétaire ». Bon, il a fait des efforts, mais ceci dit, c'est pas très, c'est pas encore extrêmement lisible. Mais là encore, au lendemain de la Révolution de Juillet, il y a un petit groupe de déçus du saint-simonisme, de jeunes ingénieurs, là encore des polytechniciens, qui se mettent à lire Fourier et qui trouvent un ensemble de choses très intéressantes et qui créent pour la première fois une école fourieriste. Et cette école fourieriste décolle en fait dans les années 1832-1833. Ils créent même leur revue qui s'appelle Le Phalanstère, puis qui va s'appeler après d'un terme qu'on trouve partout, la réforme. C'est tous des réformistes, la réforme industrielle. Et donc il y a un certain nombre de jeunes fourieristes qui se rallient au mouvement, des gens qui sont tout à fait remarquables, et là qui ne sont pas des oseaux, comme Considérant, comme Abel Transon, comme Jules Le Chevalier, comme Constantin Pécœur. Qu'est-ce qu'il y a de si nouveau chez Fourier? Premièrement, il y a chez Fourier une dénonciation radicale qu'on ne trouve ni chez les républicains, ni chez les saint-simoniens, de l'idée de progrès. L'affirmation de Fourier est la suivante, elle est de dire comment vous pouvez parler de progrès quand les 9/10 de la population est dans une telle situation. Donc il raille à longueur de temps, il dit la situation est absolument scandaleuse, parce qu'elle ne devrait pas être escalée, il faut le dire, et donc vous ne pouvez pas développer une rhétorique du progrès. Et dans son style qui est caractéristique, il raille, par exemple, ceux, et là je le cite, il raille ceux qui décrivent l'avenir, donc voilà le début de la citation, comme un vol sublime vers une marche rapide à la perfectibilité perfectibilisante. Donc, bien entendu, il dit ça, c'est du pipeau. C'est absolument du pipeau de parler de rhétorique du progrès, et c'est totalement indécent. Ça, c'est une première type. Donc, caractère totalement scandaleux du présent et complètement, non seulement scandaleux en raison de la situation objective, mais scandaleux également parce que, objectivement, cette situation ne devrait pas être celle-là. C'est une deuxième idée qui est une idée majeure du système de Fourier. La troisième idée dans laquelle il change, c'est que qu'il a une conception qui est radicalement différente de ce qu'on trouve chez les républicains et chez les saint-simoniens, une conception radicalement différente de l'homme et de Dieu. Pour Charles Fourier, l'homme est avant tout un être de passion, alors que chez les autres, c'est plutôt la raison qui domine. Ils sont très influencés par le XVIIIe siècle. Chez Fourier, c'est un être de passion. Or, et c'est pour ça qu'il y a des propositions comme celle sur laquelle j'ai commencé, or, ces passions sont multiples. Et Fourier va faire une classification qui est une classification assez précise des passions. Il va repérer 12 passions fondamentales et il va dire que chaque individu est un dosage différent de ces 12 passions. Donc il y a une extrême, non pas égalité, mais une extrême diversité des individus. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, si les individus sont si divers, quand vous considérez que tous les individus sont raisonnables ou rationnels, vous pouvez considérer qu'avec une éducation minimale ou avec un éthos commun, ils vont arriver à un ordre social qui est un ordre social finalement viable, raisonnable. Mais lorsque vous dites, comme dans le cas de Fourier, que les individus se caractérisent d'abord par leur passion et que donc il y a une extrême variabilité des individus, un problème se pose, c'est de savoir comment vous pouvez avoir une société. Et il y a une deuxième hypothèse chez Fourier qui est une hypothèse extrêmement importante, c'est qu'il dit ça pourrait être chaotique, mais ça l'est pas. Ça l'est pas parce que Dieu ne peut pas avoir prévu que finalement il n'y ait pas de solution à cette extraordinaire diversité des individus. Et donc il postule qu'il y a très certainement un code, une forme organisationnelle, c'est-à-dire pour lui une forme organisationnelle, un type de société dans lequel toutes ces passions finalement s'harmonisent, se coordonnent et s'harmonisent. Alors il dit si ce code existe, lui il postule que ce code existe, et si on le découvre, nous aurons la possibilité de créer une société qui sera une société non seulement abondante, parce que tout le monde travaillera par passion, et donc tout le monde travaillera le mieux possible, tout le monde coopérera, non seulement abondante, mais heureuse, parce que finalement on sera dans une société dans laquelle finalement, en travaillant, les gens réaliseront leur passion. Donc vous avez chez Fourier, c'est la deuxième idée, c'est très bien dit par le principal spécialiste de Fourier à l'heure actuelle, qui est un économiste, un historien américain qui s'appelle Jonathan Bisher, et il a très bien écrit que ce qui est fondamental chez Fourier, c'est... J'aimerais bien vous retrouver là. C'est l'idée, donc voilà ce que dit Jonathan Bischer, il dit, ce qu'on trouve chez Fourier, qu'on ne trouve absolument pas chez les autres utopistes de ces années-là, c'est l'idée d'une compatibilité fondamentale entre travail, bonheur et libre expression de soi. Alors, chez Fourier, vous avez une troisième version. Face à ce monde chaotique qui se met en place, il y a une solution. Cette solution, elle est inscrite dans un code, qui est une forme organisationnelle. Ce code, il faut en trouver la composition. Lui, il la trouve. Il dit, c'est pas moi, je la trouve. Et ce code, c'est ce qu'il appelle le phalanstère, c'est-à-dire une organisation dans laquelle seraient réunies 400 familles, c'est-à-dire 800 individus, puisque lui considère qu'il y a 800 types de composition des passions. D'accord ? Et dans le cadre de ce phalanstère, serait l'ensemble des tâches de production, de ménage et autres, seraient organisées pour que ces passions puissent se développer le plus librement. Donc il faut absolument, pour contrecarrer les dérives du système industriel qui se met en place, non pas créer cette espèce de manufacture triste que prévoient les Saint-Simoniens, non pas simplement fantasmer sur une solution politique, mais créer un modèle de phalanstère. Donc lui le dit, lui le développe dans ses textes, et puis les jeunes fourieristes des années 1833-1834 le réécrivent, le retravaillent. Et puis la grande idée aussi, c'est qu'en 1833, ils disent, non seulement on le décrit, mais on va le faire. Et donc en 1833, ils ont l'aide de deux ou trois députés qui se sont ralliés au fourierisme. Les fourieristes acquièrent une propriété à Condé-sur-Vègre, à quelques lieues de Paris, à une centaine de kilomètres de Paris, et ils disent, nous allons construire le premier phalanstère. Et donc, à partir, pendant toute l'année 1833-1834, dans leur journal, qui s'appelle Le Phalanstère ou la Réforme industrielle, ils donnent les premiers détails de l'arrivée, de la mise en place du premier phalanstère à Condé-sur-Vègre, qui bien sûr est une catastrophe. Ça va être une première catastrophe, elle va être très rapidement abandonnée. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est que, et c'est ça qui porte tout ce système de Fourier, c'est que si, effectivement, enfin, c'est pas si, comme il a raison, et comme effectivement l'homme se définit d'abord par les passions, et qu'il y a un code qui permet d'harmoniser toutes ces passions, celui qui découvre le code et le met en œuvre pour une première fois, donc dans le cadre d'un phalanstère, en créant un phalanstère, va susciter une telle réussite que par contagion, les phalanstères vont couvrir l'ensemble de la Terre très rapidement, parce que comme dans le cadre de phalanstère, les produits seront, comme il le dit lui-même, quintuplés, et les gens seront tous heureux, bien entendu, plus personne ne voudra rester dans ce système capitaliste. Donc vous avez ces trois formes de radicalité différentes qui se développent à ce moment-là. Comment les Canuts les réceptionnent-ils? Donc les Canuts et les doctrines de 1830. Prenons d'abord le cas de la réception par les Canuts des doctrines saint-simoniennes. Ça c'est un épisode qui se passe, je l'avais dit la dernière fois, ça se passe surtout dans la première période du journal L'Écho de la Fabrique, c'est-à-dire, en gros, entre l'automne 1831, donc le moment où les Canuts négocient pour le tarif, que le tarif est dénoncé par les négociants, que le tarif est dénoncé comme étant simplement indicatif par le gouvernement de Louis-Philippe qui explique que c'est contraire à la charte libérale d'avoir des accords collectifs. Donc, entre ce moment-là et l'été 1832, c'est à ce moment-là que la réception du saint-simonisme est la plus forte. Il faut savoir que les Saint-Simoniens arrivent à Lyon. Je vous avais cité la dernière fois la phrase de Michel Chevalier, qui est l'un des principaux Saint-Simoniens, à ce moment-là, qui dit « Il faut qu'on aille à Lyon, c'est la ville du travail ». Donc les Saint-Simoniens créent une église Saint-Simonienne à Lyon et arrivent en plusieurs stades. Le premier stade, je l'avais mentionné il y a une ou deux fois, c'est au printemps 1831, Pierre Leroux, qui est encore un Saint-Simonien, et Jean Reynaud, qui lui aussi est encore un Saint-Simonien, viennent à Lyon, font des prédications devant des centaines de personnes, et dans les assemblées, il y a nombre de Canuts. Deuxièmement, les Saint-Simoniens investissent le journal des Canuts, L'Écho de la Fabrique. Il faut savoir que l'un des principaux officiers de liaison du Saint-Simonisme à Lyon est un négociant qui est proche des Canuts, qui est proche des chefs d'atelier, qui s'appelle Barthélemy Arlès Dufour, et Barthélémy Arlès Dufour finance, il fait partie des souscripteurs de l'Écho de la Fabrique, il a la première liste de souscription de l'Écho de la Fabrique, il publie dans l'Écho de la Fabrique, et qu'est-ce qu'il fait dans l'Écho de la Fabrique? Eh bien, il présente la doctrine saint-simonienne, il présente les principaux thèmes de la doctrine saint-simonienne. Les saint-simoniens sont extrêmement présents dans le journal, dans toute cette période-là. Mais que retiennent exactement les Canus du discours que leur tiennent les saint-simoniens dans cette période-là? Premièrement, ils sont convaincus par un certain nombre de thèmes du saint-simonisme, bien entendu. Et par quel thème en particulier? Ils sont tout à fait d'accord avec les saint-simoniens pour voir poindre à l'horizon une société où les producteurs, et notamment ceux qui travaillent, sont au premier rang de la nouvelle société. Parce que finalement, c'est ce que disent les saint-simoniens. Les saint-simoniens disent la société future est une société, c'est la société industrielle, la société de tous les industriels, une société dans laquelle, pour reprendre, puisque le terme est présent dans la littérature saint-simonienne, une société dans laquelle l'exploitation de l'homme par l'homme aura été éliminée, une société dans laquelle, finalement, les individus seront placés dans la hiérarchie de la société suivant leurs capacités, seront rémunérés, non seulement seront placés en termes de responsabilité au niveau de leurs compétences, mais seront rémunérés selon leurs compétences. Donc les Canus entendent ce discours-là, ils sont tout à fait d'accord avec ce discours. Mais ils sont aussi extrêmement inquiets. Et ils deviennent extrêmement inquiets très vite par rapport à ce discours. Pourquoi? Premièrement, parce que les saint-simoniens décrivent la future société comme, pour reprendre le terme de Saint-Simon, un vaste atelier, une vaste machine. Donc finalement, les saint-simoniens, assez vite, voient la future société industrielle qui se met en place comme une grande manufacture concentrée. Bon, et les Canus, comme je l'ai dit, toute une partie du combat des Canus de cette période-là est justement de démontrer que le système de la manufacture dispersée, dans lequel ils travaillent avec leurs ateliers et leurs formes de régulation assez démocratiques, comme par exemple dans le cadre des prud'hommes, ce système-là est efficient. Or, les saint-simoniens ne pensent pas à ça, ils pensent à un atelier qui finalement préfigure l'usine moderne, dans lequel les plus importantes capacités sont au sommet de cette maîtrise des savoirs et des savoir-faire, et sont au sommet de cette nouvelle société, et donnent et positionnent les individus en dessous d'eux, les positionne en termes de responsabilité et donc les positionne en termes de rémunération. Donc les Canus n'aiment pas ce système extrêmement concentré qui se met en place. Et puis deuxièmement, assez vite, ils ont des doutes sur l'origine de ces capacités. Ils disent d'où sortent ces capacités en quelque sorte. Dans le cadre du discours saint-simonien classique qui voit apparaître chez Arlès Dufour ou qui voit chez Pierre Leroux ou autre, les capacités, c'est d'abord des capacités intellectuelles. C'est la capacité des ingénieurs, des grands ingénieurs saint-simoniens. Et donc, les Canus comprennent assez vite que finalement, ce régime de capacités n'est pas un régime si ouvert que ça concernant le classement des capacités. Finalement, il y a un classement a priori des capacités. Donc, lecture de la littérature saint-simonienne, récupération par les Canus d'un certain nombre de thématiques tout à fait intéressantes des saint-simoniens, et puis tri et filtrage des discours saint-simoniens par les Canus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, par rapport aux républicains. Donc, les républicains, eux, leur parlent de l'État démocratique. Là encore, quand on regarde la situation à Lyon dans les années 1831-1834, il y a un entrelacement entre la population Canus, ou la population des chefs d'atelier, mutualistes et non mutualistes, et les républicains. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. L'un des signes les plus évidents, c'est que, pendant plus d'un an, l'Écho de la Fabrique est dirigé par un républicain, qui est Maurice Chastin. Maurice Chastin dirige le journal entre 1832 et 1833. Ils le mettent d'accord, ils le mettent dehors, mais l'Écho de la Fabrique est encore dirigé, l'indicateur surtout derrière est encore dirigé par un républicain. Donc on trouve la présence des républicains au cœur du journal des Canus. De la même manière, quand le mutualisme qui a été créé, on en avait parlé dans une présentation précédente, le mutualisme dont la première mouture avait été imaginée dans les années 1827-1828 par une première génération de chefs d'atelier. Le mutualisme fait sa mue en 1833, à la fin de l'année 1833, et elle fait sa mue au moment même où la grande société républicaine de l'époque, la Société des droits de l'homme, s'implante à Lyon, et la mue que connaît le mutualisme à la fin de l'année 1833 intègre des ingrédients républicains. Les républicains sont très présents dans la société mutualiste. Donc, ces deux mondes ne sont absolument pas fermés l'un à l'autre. Quelle thématique, dans le cadre du discours qu'ils lisent dans Le National, qu'ils lisent dans Le Réformateur de Raspail, qu'ils lisent dans Le Populaire de Cabé, par exemple, c'est les grands journaux républicains de l'époque. Le Réformateur, oui, Le Réformateur, Le National, Le Réformateur, Le National, Le Populaire. Quelle thématique intéresse les Camus dans le cadre de ces journaux-là et dans le cadre du discours républicain classique? Ils sont tout à fait d'accord avec la principale idée des républicains de cette période-là, c'est-à-dire l'idée du suffrage universel. Ils sont tout à fait d'accord pour dire, effectivement, nous travaillons, ils sont imposés, l'imposition est très forte, et c'est, comme je l'avais dit précédemment, c'est une imposition principalement indirecte, qui les touche très nettement, donc ils sont citoyens pour payer les impôts, mais ils savent très bien qu'ils ne sont absolument pas citoyens pour voter. Donc, la thématique mise en avant par les républicains, qui est de dire la réforme du système doit passer d'abord par l'institution du suffrage universel, ils sont tout à fait d'accord avec cette thématique-là. Bon, ça c'est un premier point. Mais il y a également des inquiétudes très fortes de la part des Camus. Donc là encore, par rapport au discours républicain qui leur arrive, de la même manière que par rapport au discours saint-simonien, les Camus vont repérer un certain nombre de zones d'ombre qui les inquiètent énormément et vont écarter un certain nombre de propositions. Premier point qui les inquiète énormément, la conquête de l'État, considère-t-il, est quelque chose de tout à fait intéressant, mais le fait de considérer que l'émancipation ne se conquiert que sur le terrain du politique, ça, c'est quelque chose qui n'est pas admissible pour eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça occulte tout ce qui s'est passé dans le cadre de leur démocratie d'atelier. Ils voient très bien qu'un certain nombre d'aspects de leur émancipation concrète à ce moment-là vient de ce qui s'est passé dans le cadre de leur travail et dans le cadre de la régulation de leur travail. Or, ça, sur cet aspect-là, les républicains sont extrêmement en retard. Pour eux, la réforme, l'idée de réforme, c'est d'abord l'idée de la réforme politique et liée à la représentativité, au suffrage et à la représentativité. Sur le terrain économique, leur discours est assez pauvre parce qu'ils disent « Quand on aura réglé la question politique, la question économique se réglera automatiquement. » Sera automatiquement réglée. Or, les Camus ne sont pas du tout convaincus que ça sera le cas. Ce qui va apparaître, c'est la réapparition d'un État central, qui est un État central fort, et dans lequel, pour eux, il n'est pas certain du tout qu'ils auront leur place, qu'ils auront une voix et qu'ils auront leur place. Par contre, ils se rendent compte que sur le terrain des prud'hommes, sur le terrain économique, là, c'est là qu'ils conquièrent leur émancipation. Donc ils ne sont pas entièrement convaincus par le discours des républicains. Et on le trouve, par exemple, je ne me rappelle plus la période, 1833 ou 1834, ils écrivent « L'industrie n'a pas moins fait pour la liberté humaine que le progrès des Lumières ». Donc ce sur quoi ils vont insister dans cette période-là, c'est qu'ils vont dire « L'association politique telle que vous nous la proposez », ce grand terme de l'association, puisque finalement, c'est ce qu'on a vu sur ces deux dernières séances, face à ce système industriel où soit vous avez une concurrence effrénée d'un côté, soit vous avez une monopolisation et une concentration des pouvoirs de l'autre, tous ces réformateurs, à quelque niveau qu'ils soient, sont d'accord pour dire il faut créer l'association. Bon, une fois qu'ils ont dit ça, vous avez énormément de formules différentes de l'association. Là, on vient d'en voir au moins trois, plus la quatrième qui est en train de se développer. Les trois, c'est l'association saint-simonienne, une association économique capacitaire, l'association républicaine, on voit ce que c'est une association qui est d'abord une association politique, c'est l'État. Et puis, vous l'avez, l'association fourriériste, qui est une association économique, mais une micro-association. Bon, Là, on voit que les Camus, eux, réfléchissent à, une propre, à des propres moutures de l'association, de leur côté, et qui vont aller piocher un certain nombre de choses intéressantes chez les Saint-Simoniens, chez les Républicains, comme on vient de voir, et puis on va le voir chez les Fouriéristes. Des Républicains, il dit, par rapport à la doctrine, par rapport aux idées des Républicains, ils vont dire l'association politique, très bien, mais pas l'association politique telle que vous la pensez, qui est l'État. Nous, on veut créer l'association ouvrière. Et l'association ouvrière, explique-t-il, doit se focaliser sur deux problèmes qui ne sont pas directement les problèmes politiques liés au suffrage universel, qui sont premièrement la précarité et le niveau des inégalités. Il faut des associations de travailleurs pour, sur le terrain économique, travailler à remédier à ces deux fléaux-là. Donc voilà, là encore, je vous ai cité tout à l'heure cette phrase sur l'agiotage et la spéculation qui était tout à fait actuelle, mais à l'automne 1833, ils écrivent que ce que doit combattre l'association ouvrière, et donc sur le terrain économique, complémentaire de l'association politique telle que le prévoient les républicains, parce que, encore une fois, les ouvriers sont tout à fait d'accord pour qu'il y ait une avancée, un progrès du suffrage universel. Simplement, ils disent que c'est insuffisant. Et si les républicains ne proposent que le suffrage universel, on se fera rouler dans la farine une nouvelle fois. Donc nous, on propose quelque chose de tout à fait complémentaire, qui est l'association ouvrière. Et l'association ouvrière doit régler deux problèmes, qui sont premièrement la précarité, et deuxièmement le niveau des inégalités. Voilà ce qu'ils écrivent sur cette question-là. Ils stigmatisent, je les cite, l'absence de toute garantie d'existence et par conséquent de travail pour 23 millions d'hommes sur 32. Donc cette absence n'est-elle pas la violation d'un droit tout aussi sacré que celui de la propriété, que nous sommes loin du reste de vouloir attaquer? Nous soutenons à notre tour qu'un régime tel que celui actuel ne saurait rien produire d'heureux pour la prospérité de l'industrie et du commerce, car la paix et la sécurité publique sont les premiers éléments de prospérité. Et il ne saurait y avoir paix durable dans une société où d'un côté se trouvent richesse et superflu pour quelques-uns, de l'autre misère et privation pour la masse. Donc il crée, et il y a tout un, je ne veux pas le développer ici, mais il y a tout un ensemble de réflexions qu'on voit monter chez les mutualistes en face du discours républicain dans cette année 1833. Ils disent qu'il faut créer cette association, c'est une association de travailleurs, c'est une association de travailleurs qui pense, notamment les mutualistes, dans le cadre de très particulier de la fabrique, c'est-à-dire de l'économie de la soie, mais très rapidement, ils nouent des alliances, et par exemple, les mutualistes de Lyon font un grand banquet à Givors avec les mutualistes de Saint-Étienne et signent un accord entre les deux formes de mutualisme, et puis les mutualistes tendent la main à d'autres professions qui elles-mêmes s'associent, et puis les mutualistes de Lyon sont également en rapport et sont également au courant de ce qui se passe en Angleterre. Et donc, ce qu'ils voient poindre partout, c'est la montée de l'association ouvrière. La principale réalisation qu'ils font par rapport à ça, on en a discuté un petit peu il y a deux séances, c'est l'une des principales réalisations, c'est la grève de février 1834. Puisqu'en février 1834, dans une conjoncture baissière de la fabrique de Lyon, et pour venir en aide aux peluchiers, à quelques centaines d'entre eux qui sont dans un segment de l'économie de la soie qui est un segment plutôt en croissance. Les peluchiers sont dans un segment en croissance et les négociants qui sont en contact avec les peluchiers décident quand même de baisser le prix des façons. Donc par rapport à cette entorse absolument flagrante, toute la profession décide de se mettre en grève et d'organiser quelque chose qui est à ce moment-là peu imaginable, puisque la grève générale, la grève moderne arrive à peu près une quarantaine ou une cinquantaine d'années plus tard, et ils décident d'organiser une grève générale. Et donc, les mutualistes votent en bloc, en février 34, une levée des métiers. Et pendant une semaine, les métiers à Lyon s'arrêtent, totalement, simplement en solidarité pour qu'il y ait quelques centaines de peluchiers. D'accord ? Et ça, c'est une manifestation qui est une manifestation absolument éclatante du degré d'organisation auquel est arrivé le mutualisme à ce moment-là, en tant que première mouture de l'association ouvrière. Là encore, je vous citerai non pas l'écho de la fabrique, mais un commentaire qui est fait un petit peu plus tard par Louis Blanc, dans son ouvrage Histoire de 10 ans, qui est sur les 10 premières années du règne de Louis-Philippe entre 1830 et 1840. Voilà ce qu'écrit Louis Blanc. Il dit « Considérez dans son principe moral, cette haine, donc cette grève, avait quelque chose de singulièrement élevé. Quoi de plus touchant que de voir 50 000 ouvriers suspendre tout à coup les travaux qui les faisaient vivre et se résigner aux privations les plus dures pour garantir de toute atteinte 1 200 de leurs frères les plus malheureux. Par rapport à la classe ouvrière, c'était la théorie de l'association appliquée sur une grande échelle et au prix de sacrifices qui en rendait l'effet plus imposant. Par rapport à la bourgeoisie, c'était une démonstration terrible, mais péremptoire, des vices d'un régime industriel qui, fondé sur un antagonisme de tous les instants, ne vit que par le perpétuel triomphe du fort sur le faible et entretient une hostilité flagrante entre ces deux éléments de la production, le capital et le travail. » Donc là encore, comme avec les Saint-Simoniens, on voit comment, face aux républicains, les chefs d'atelier font un tri sélectif de la doctrine républicaine de l'époque, la déforment, l'adaptent, la bricolent, pour créer quelque chose qui est quelque chose d'original. Donc, ils ont tiré un certain nombre d'éléments et ils avancent dans leur propre réflexion sur l'association en entourant cette notion d'association ouvrière. Donc, la notion d'association ouvrière telle qu'on la voit là est finalement tirée d'un côté de l'économie politique saint-simonienne et de l'autre de la politique républicaine. Maintenant, les Camus et les Fourieristes. Début de l'année 1833, pour des raisons diverses et variées, l'église saint-simonienne de Lyon est en déclin, et il arrive un certain nombre de conférenciers fourieristes à Lyon, dont un fourieriste qui s'appelle Adrien Berbrugger. Là encore, on sait que les canuts, les chefs d'atelier, entrent en contact avec les fourieristes. Et on a par exemple, c'est Jonathan Bichère qui nous l'avait montré, on a par exemple une lettre de Berbrugger à Fourier, à Charles Fourier, où il lui dit, ben voilà, j'ai fait ma deuxième ou ma troisième conférence sur Lyon, on doit être au printemps 1833, il y avait beaucoup de chefs de Camus, à la fin de la conférence, l'un d'entre eux qui était l'un des chefs de leur confrérie, et je pense que c'était Joseph Bouvry, qui était un des fondateurs du mutualisme, est venu à discuter avec moi, c'est un type absolument remarquable, on a échangé, dans la lettre, Berbrugger dit « J'en ai appris à peu près autant que lui en a appris de moi. » Bon, donc on sait que les fourriéristes sont à Lyon. On sait également que dans le cadre de l'École de la Fabrique et des journaux ouvriers lyonnais, un certain nombre de fourriéristes lyonnais et liés à l'activité de la fabrique interviennent. Et en particulier, deux d'entre eux sont très très importants. Le premier, c'est un républicain qui est converti au fourriérisme, qui s'appelle Jacques Rivière-Cadet, et qui va écrire dans l'École de la Fabrique énormément de papiers sur la doctrine de Fourier, où il va présenter la doctrine de Fourier, qui a une série de 9 articles qui s'appelle « La doctrine de M. Charles Fourier ». Ça, c'est le premier. Et le second est Michel-Marie Dorion. Donc, je vais revenir sur Michel-Marie Dorion après. Mais que retiennent les canuts du fourriérisme? Beaucoup de choses, en fait. Premièrement, ils retiennent la dénonciation du caractère scandaleux du thème du progrès. Parce qu'ils sont, bien entendu, eux voient les effets de la misère sur Lyon à ce moment-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans le cadre du fourriérisme, contrairement à ce qu'on trouve chez les saint-simoniens et chez les républicains, il y a un éloge du travail. Il y a un éloge du travail, de la qualité et du lien entre, comme le disait Jonathan Bichère, entre talent, plaisir, accomplissement de soi et travail. Et ça, c'était quelque chose que pouvaient entendre, que pouvaient comprendre et que pouvaient traduire immédiatement les Camus, qui étaient, comme on l'a vu dans le cadre des premières présentations, qui étaient des artisans extrêmement qualifiés et extrêmement cultivés. Par rapport à ça, les fourriéristes, eux, avaient ce discours-là, en disant que finalement, les passions devait être réalisé dans le cadre du travail. Si le travail était bien organisé et le travail était suffisamment varié, les passions étaient remplies et donc le travail était un moyen de se réaliser. Par rapport à ça, les deux autres discours les deux autres utopies qu'on a présentées ici étaient beaucoup plus pauvres. Parce que, pour les Saint-Simoniens, c'était, pour un certain nombre d'entre eux du moins, et notamment pour ceux qui vont percer par la suite et qui vont devenir les grands capitaines d'industrie, de la banque, de l'industrie, du chemin de fer et autres, en France, dans la deuxième partie du XIXe siècle, c'était des technocrates. Donc c'était les premières formules extrêmement pauvres du travail industriel. Donc c'était le travail, c'était un travail qui devait être divisé, parcellisé, rationalisé et autres. Donc les échos qu'avaient les Camus du discours saint-simonien, c'était ça sur le travail. Quant aux républicains, ils parlaient très peu de travail. Les républicains parlaient de citoyenneté. Ils parlaient de citoyenneté politique. Ils ne parlaient pas de travail, ils ne parlaient pas d'activité économique. En revanche, chez les fourriéristes, on avait un discours très fort sur l'activité économique et le travail. Et ça, les Camus l'entendent très vite. Et puis le troisième point qui était important aussi dans le cadre de l'économie fourriériste, c'est que Charles Fourier parlait d'un système qui offrait un certain nombre de garanties aux travailleurs. Une garantie en matière de non-emploi, garantie en matière de vieillesse, garantie en matière de maladie. Et c'était des points sur lesquels les Camus étaient là aussi extrêmement attentifs. Le dernier point, en fait, encore plus important, qui était au cœur du fourriérisme et qui intéressait les Camus, qui, comme on l'a dit ici dans le cadre de toutes ces présentations, essayaient de maintenir ce système extrêmement complexe d'ateliers dispersés, le système de la manufacture dispersée lyonnaise, c'est que les fourriéristes semblaient dire à l'époque, même si on pouvait douter de leur solution, mais ils semblaient dire quand même qu'il y avait peut-être une solution à l'association, on revient donc sur cette question-là, à l'association du capital, du travail et du talent. Alors, on pouvait se marrer quand Fourier parlait des jeunes filles qui aimaient les mathématiques et l'ail, mais ceci dit, Fourier semblait dire quand même qu'il y avait une solution à ce problème-là. Peut-être que Fourier ne l'avait pas trouvé, la solution, mais lui disait au moins qu'il y avait une solution à ça. Il ne disait pas, comme pour les Saint-Simoniens, que le travail devait être appauvri et que c'était la solution. Il ne disait pas, comme les républicains, que le travail, on ne devait pas l'aborder cette question-là parce que c'était une question assez secondaire. Lui disait que c'était un problème majeur et que ce problème majeur avait une solution. Ça encore, c'était un message qui était un message extrêmement fort pour les Camus, qui, comme on l'a vu ici, étaient si fiers de leur travail, de leur autonomie de producteur. Vous vous souvenez probablement que sur une des premières conférences, j'avais dit que dans le manifeste du mutualisme lyonnais, dans un des manifestes qui devait être de 1832, les Camus se décrivaient comme les jardiniers libres du champ de la fabrique. Donc ça montre à quel point il y avait une fierté du travail et une attention au travail qui était une attention extrême. Or, les fourriéristes disaient, mais ils étaient tout à fait dans cette ligne-là, parce qu'ils disaient qu'on pouvait concilier travail, talent, bonheur et autres. Donc, les Camus étaient tout à fait intéressés par un certain nombre de thématiques du fourriérisme, mais il y avait un point qui les embêtait plus chez Fourier que chez les fourriéristes, c'est que Fourier semblait dire, en particulier dans la théorie des quatre mouvements et puis dans les élucubrations qu'il avait dans le Phalanstère, Fourier était quand même un type tout à fait particulier parce que le journal Le Phalanstère est créé par les jeunes fourriéristes, donc au milieu de l'année 1832. Et donc il crée un journal pour Fourier, c'est le journal de la doctrine de Fourier. Et Fourier est encore en vie pour quelques années. Et très rapidement, c'est un gros problème, parce que ces jeunes fourriéristes, ingénieurs comme Transon, ou considérants, ou journalistes comme Le Chevalier, ou comme Constantin Pécœur, ont un gros problème dans le cadre du journal, qui est Fourier lui-même. Parce que Fourier écrit des trucs complètement délirants. Dans le cadre du journal, eux passent leur temps à essayer d'expliquer que chez Fourier, il y a des trucs tout à fait sérieux et tout à fait intéressants qui doivent être extraits de l'œuvre de Fourier, des intuitions comme celles qu'on vient présenter là, et Fourier passe son temps à raconter absolument n'importe quoi. Donc, il y a un problème, et au bout d'un an, il ferme boutique et ils disent tous, on n'en peut plus, on s'en va, on le laisse, il est ingérable. Donc, il y a toujours eu, entre Fourier et entre les fourriéristes, il y a toujours eu une décantation entre ces deux niveaux-là. Ce qui pouvait gêner les Camus eux-mêmes dans l'œuvre de Fourier, c'est que Fourier semblait dire qu'il fallait créer une première expérience complète de ce fameux code social qui permettait d'harmoniser toutes les passions. Donc il fallait absolument, on pouvait expérimenter une chose, qui était un phalanstère avec 400 familles à l'intérieur. Ça, c'était une lecture possible de Fourier. Certains fourieristes avaient une lecture légèrement différente, en disant, ce qui est fondamental chez Fourier, bon, si on pouvait faire le phalanstère comme il l'espère tout de suite, on le ferait. Parce que c'est comme il l'a dit, ça serait une telle réussite que ça se diffuserait par contagion à l'intégralité du globe. Mais pour l'heure, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible notamment parce que ce phalanstère, il faudrait l'installer au cœur même de la civilisation. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils vont justifier le fait que l'expérience de Condé-sur-Vègre a été un échec. Et c'est pour ça aussi, vous le savez peut-être, c'est pour ça aussi que énormément de fourieristes vont partir. Ils vont partir aux États-Unis, ils vont partir vers les Terres Vierges, en disant, si les premiers phalanstères qu'on a créés, en particulier en Europe, n'ont pas marché, c'est qu'au milieu de la civilisation qui est pour eux la corruption, ce n'était pas possible que l'expérience fonctionne. Donc, ils sont partis par colonies. On sait que les Icariens sont partis après, les communistes sont partis après, mais un certain nombre de fourieristes partent à ce moment-là vers le Texas, vers la Californie ou autre, pour créer des phalanstères. D'accord ? Mais l'autre conclusion qu'on pouvait en tirer, c'est que peut-être que c'était trop ambitieux de faire tout de suite l'expérience du phalanstère complet. Et donc ça, c'est l'interprétation qu'il va y avoir à Lyon, et notamment par les fourieristes pratiques comme Michel-Marie Derion ou comme Jacques Rivière-Cadet. Donc ils vont dire, il faut s'inspirer, et les Canus vont être sur cette ligne-là, il faut s'inspirer de l'expérience, du message de Fourier, mais pour créer des micro-expériences. Et donc ce qu'ils vont faire à Lyon, ça par contre c'est connu, c'est que au lendemain de la seconde insurrection, en 1834, un négociant, Michel-Marie Derion, donc, fourieriste, publie une brochure qui s'appelle « Remèdes aux causes du malaise social ». Dans cette brochure, il développe, en fait, tout simplement, les plans inspirés de Fourier d'une première forme de coopérative de consommation. Il crée, sur les pentes de la Croix-Rousse, une épicerie coopérative. L'idée est reprise, et Michel-Marie Derion la représente son projet dans une série de 8 articles qui paraissent dans le journal des mutualistes lyonnais, l'Indicateur, au tournant de l'année 1834-1835. Il publie une série d'articles qui est intitulée « Amélioration sociale ». Et dans cette série d'articles, il explique comment, pour arriver à dévier les formes d'oppression qui se mettent en place dans le cadre de l'économie en général et de l'économie de la fabrique en particulier, le moyen que peuvent trouver les Canus en s'inspirant du message fourieriste, c'est non pas de créer une coopérative de production qui est trop difficile à mettre en place, parce qu'il faudrait mettre en commun les outils, mettre en commun les métiers, créer des vastes ensembles, et ça c'est pas possible, pour des raisons de complexité de l'appareillage, pour des questions de bâtiment ou autre. Donc ça c'est pas possible, mais ce qui est possible en revanche, c'est de créer une coopérative de consommation. Et donc, Michel-Marie Derion publie dans l'Indicateur les plans de cette première coopérative, donc qui s'appelle le commerce véridique et social, et les souscriptions s'ouvrent, on les trouve dans l'Indicateur, on voit qui souscrit à ce projet. Au printemps 1835, c'est la première coopérative est créée à Lyon, et ils vont créer 7 magasins coopératifs qui vont durer de 1834 à 1837. Puis en 1837, il y a une crise qui est une crise extrêmement sévère, une crise économique extrêmement sévère, et donc l'expérience à ce moment-là se termine, et Michel-Marie Derion lui-même part aux États-Unis. Mais là, vous avez une troisième récupération, un troisième bricolage de l'idée d'association qu'on trouve dans le cadre dans le cadre de l'économie lyonnaise, dans le cadre de l'économie des Canus. Donc on voit bien, pour en revenir à la question qui a été posée au départ, on voit bien en quoi les Canus n'étaient absolument pas les simples récepteurs neutres, les simples récepteurs passifs des grandes doctrines radicales, socialistes, associationnistes, romantiques et autres, du début des années 1830. En quoi il y a eu effectivement une lecture, mais en quoi cette lecture a été une réception et une réception critique. Et en quoi cette réception critique était chaque fois focalisée sur le problème principal qui était alors d'imaginer qu'est-ce que être associé signifie. C'était ça le problème principal, de savoir qu'est-ce qu'on entendait par ce terme d'association, qui était nouveau. On comprenait très bien que l'association ne reproduisait pas l'ancien régime des corporations, donc c'était quelque chose qu'il fallait imaginer totalement neuf. Et on voit bien que dans le cadre de cette imagination, il y a eu une contribution qui est une contribution extrêmement pertinente des chefs d'atelier dans le cadre de l'éco de la fabrique et dans le cadre de l'économie de la fabrique, via la notion d'association ouvrière, d'une part, et via le commerce véridique et social, d'autre part.